comique, pas de perfide. À Saint-Joseph, le 7 mai 85.
Nous avons essayé de voir ce chapitre 17. Vous voyez bien l'un des sommets de la révélation, puisque ce chapitre 17 nous révèle les désirs, puisqu'il s'agit de la prière, les intentions profondes du cœur de Jésus face à son Père, comme fils bien-aimé, comme ayant reçu du Père une mission, comme prêtre, médiateur entre Dieu et les hommes, entre son Père et les hommes, et parce qu'il est responsable de tous les hommes, priant pour eux, les portant dans sa prière et demandant à Dieu de les consacrer dans la vérité et demandant au Père qu'il soit un dans cette consécration de la vérité et dans l'amour. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, cela aussi soit avec moi, pour qu'il voie la gloire, la mienne que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Ça se termine de cette manière, au-delà de la consécration, cette union dans l'amour, cette unité dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, il faut y revenir toujours à ça, à cette prière, pour que ce soit notre prière, pour que de plus en plus notre cœur soit en comme naturalité avec le cœur du Fils bien-aimé, pour que de plus en plus notre cœur vive de la même mission que Jésus, cette mission sacerdotale du Fils bien-aimé. À la fois ce regard sur le Père pour demander au Père d'être glorifié, c'est-à-dire que l'amour divin en nous soit toujours victorieux, et pour que par là nous puissions glorifier le Père. Enfin, tout se ramène à ça. Hein. Toute notre mission sur la terre, toute notre vie sur la terre se ramène bien à cela, cette exigence de contemplation et cette exigence de responsabilité à l'égard de tous ceux qui sont proches de nous, pour les relier au Père par Jésus et en lui, pour réaliser cette unité. De sorte que je n'insiste pas, nous allons entrer tout de suite dans le chapitre 18, 19. Les deux grands derniers chapitres de Saint Jean, qui à la fois montrent les anéantissements, nous allons voir jusqu'où va cet anéantissement, et les dernières initiatives. Ayant dit cela, alors, vous voyez toutes les questions qui peuvent se poser au point de vue exégétique, hein, qu'on a tous entendu ces choses-là, en disant mais comment Jean a-t-il pu redonner ce point de vue de la prière sacerdotale de Jésus? Est-ce que vraiment ça s'est donné là ou est-ce que c'est une recomposition de Jean? Vous savez très bien, je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est d'accepter le texte tel qu'il est. Je crois, en croyant, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est d'accepter le texte tel qu'il est. Et la question du comment, c'est une autre question. C'est une question de savant, au point de vue historique. Ce n'est pas une question de croyant. Le croyant, lui, reçoit la parole de Dieu telle que l'Église nous la transmet. Ensuite, il peut essayer d'avoir une intelligibilité du texte. Alors, l'intelligibilité du texte, comprenons bien, le mystère dépasse toujours tout. Et donc, le texte restera toujours infiniment mystérieux. Mais vous pouvez avoir, vous pouvez mettre votre intelligence au service de cette prière. Si c'est la grande révélation du cœur de Jésus et de l'amour du cœur de Jésus, on doit mettre toute son intelligence au service de l'intelligibilité qu'on peut avoir de cette prière. Vous voyez bien que l'intelligibilité qu'on peut avoir d'une prière, c'est avant tout à travers et dans l'amour. Donc, on pourrait dire que ce n'est que dans une théologie mystique que nous pouvons comprendre cela. Ça, je crois. C'est du reste pour ça que la théologie scientifique de saint Thomas ne fait pas beaucoup d'allusions à ce chapitre 17. Ça peut nous scandaliser, mais il faut tout simplement comprendre quelle est l'intention de saint Thomas en faisant une théologie scientifique. Thomas n'a jamais considéré que le chapitre 17 n'avait aucun intérêt. Aucun. Il n'a jamais considéré ça. Mais pour sa théologie scientifique, ça ne pénètre pas directement. Je ne crois que ça ne peut être compris que dans une théologie mystique. Dans une théologie mystique où nous essayons de comprendre la grande révélation de l'amour. Et dans cette révélation de l'amour, il est évident que ce chapitre 17 prend une place extrêmement importante. Le lien d'amour qui existe entre le cœur de Jésus et le Père, le lien d'amour qui existe entre le cœur de Jésus et ses disciples, et le lien d'amour qui existe entre le cœur de Jésus et toute l'Église, et toute l'humanité. C'est une prière catholique, absolument universelle. Donc, c'est dans une théologie mystique que nous devons essayer de comprendre toute l'intelligibilité de ce texte. Savoir si ce texte est bien à sa place, ou comment est-il là, et si c'est Jean qui a recomposé ça, est-ce que vraiment Jésus a eu comme dernier entretien avec les apôtres une prière? Oh, c'est la question qui peut se... Ça peut se poser, c'est pas du tout illégitime de se poser la question. Alors, je crois que c'est tout à fait normal que le dernier entretien que Jésus ait avec ses apôtres, ce soit une prière adressée au Père. Puisque à partir de là, il va être coupé des apôtres. Et il le sait. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu cette prière pour conduire les apôtres vers le Père, pour les apprendre à regarder le Père et à regarder le Père comme Jésus lui-même le regarde. Et je crois que ceci est suffisant pour légitimer cette place. Alors, comment Jean a-t-il pu retenir cela ? On oublie qu'elle est Saint-Esprit. Être désigné comme Jean pour écrire un évangile, c'est quand même une fonction extrêmement importante dans l'Église. Alors, s'il y a un charisme de gouvernement, il peut bien y avoir un sermo sapientiae qui existe aussi. Et le sermo sapientiae, c'est justement pour permettre d'entrer pleinement et de vivre pleinement de cette prière de Jésus. on a tous retenu dans notre cœur certaines prières qu'on a pu entendre à des moments importants de notre vie. Prières de saints ou de saintes qui se sont gravées dans notre cœur. Je ne vois absolument aucune impossibilité à ça. C'est du reste, au fond, l'inverse serait anormal. Ça prouverait que les apôtres n'aiment pas beaucoup Jésus. C'est le disciple bien-aimé. Si c'est le disciple bien-aimé, c'est donc celui qui, en raison même de son amour pour Jésus, est capable de retenir cela. C'est-à-dire que je crois que profondément, quand on se place dans la perspective même où nous est révélé ces différents chapitres, en théologie mystique, aucune difficulté. Si je me place en dehors de cette perspective, je ne peux rien comprendre. Tout simplement. Pas besoin de dire autre chose. Vous comprenez bien que si j'applique des méthodes historiques à ces derniers moments de Jésus, je ramène nécessairement les faits à quelque chose de moindre. Soyons loyaux. Dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui domine toute l'histoire de l'humanité pour un croyant? C'est la dernière semaine que Jésus a vécu sur la terre. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi grand et d'aussi important. Et ce qui est le plus important dans la vie du Christ, dans la dernière semaine, au point de vue enseignement, c'est l'enseignement donné aux apôtres. Et si cet enseignement se termine par une prière, on peut dire que c'est, nous touchons là, le sommet de l'humanité dans son pèlerinage terrestre. Et donc, je dirais, cette réalité singulière, personnelle, impose par elle-même une méthode unique. Ramener la dernière semaine à une méthode historique habituelle, c'est nécessairement se mettre dans l'impossibilité de comprendre ce que c'est que la dernière semaine. Parce que la dernière semaine de Jésus sur la terre a quelque chose d'unique. Ça, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Parce que nous n'avons pas le droit de diminuer la vérité. Nous sommes gardiens de la vérité. Dans la foi, hein, c'est au point de vue de la foi où je dis ça. Du point de vue philosophique, je ne peux rien dire. On pourrait simplement dire que oui, en tant que philosophe, on doit être extrêmement attentif de garder intégralement les paroles d'un sage. Ça, c'est sûr. Vous voyez, comme Platon a gardé avec beaucoup d'amour les derniers moments de Socrate, il est tout à fait normal que Jean ait gardé avec beaucoup d'amour les derniers moments de Jésus. Et nous ne pouvons l'atteindre que dans une attitude de foi. C'est pour ça qu'il me semble qu'en face du chapitre 17, on ne peut rien dire, exégétiquement parlant. Parce qu'on est en face d'un sommet. Donc il doit se comprendre par lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut rien dire. Dans une méthode historique, c'est toujours en référence à autre chose. Alors, je comprends très bien qu'on dise « ça m'échappe ». Très bien, ça échappe, et ça nous échappe à tous. Hein. Personne n'oserait dire qu'il comprend la prière sacerdotale, qu'il comprend la prière du Fils bien-aimé. Ça nous échappe à tous. C'est quelque chose qui nous agrandit. Chaque fois qu'on récite cette prière, ça nous oblige de nous mettre dans la lumière du Christ, et donc ça nous agrandit. Mais nous sommes disciples. Nous recevons, nous écoutons. Et nous essayons de vivre. Mais c'est un sommet. Et Père Feuillet insiste énormément là-dessus. Et il a raison. Et je crois que là, il a tout à fait raison. C'est un sommet. Et donc, parce que c'est un sommet, ça ne peut pas s'expliquer par tout ce qui est inférieur. C'est au contraire ce sommet qui devrait expliquer tout le reste. Mais là, ce n'est plus une méthode historique, vous voyez. C'est une méthode proprement de théologie mystique. C'est au moment où quelqu'un déclare son amour pour le Père en mendiant, et donc en pauvre, c'est à ce moment-là où on peut le mieux saisir ce qu'il est pour le Père et ce qu'il est pour nous. Et vous voyez bien que dans une théologie scientifique du Verbe incarné, tel que saint Thomas l'a fait, le chapitre 17 n'est pas présent. Alors ça, c'est très important de bien saisir que le chapitre 17 ne peut pas être présent dans une théologie scientifique. On dirait que c'est la théologie du cœur, vous voyez. Et c'est vrai, c'est la théologie du cœur, d'une certaine manière, parce que c'est la théologie des désirs du cœur du Christ. Et ça ne peut pas être présent dans une théologie scientifique. C'est très curieux, quand vous regardez la théologie scientifique de saint Thomas, ce que c'est que la gloire. Vous cherchez, et vous ne trouvez pas. Père, il est venu l'heure, glorifie ton Fils. Ce n'est pas dit en théologie scientifique. Alors que c'est peut-être cela qui donne la clé de la théologie mystique. C'est le mystère de la gloire. La théologie mystique doit se faire dans la lumière de la gloire. Si, de fait, hein, nous sommes là au sommet, au point de vue enseignement, point de vue du logos, le logos qui nous parle, et il n'a jamais parlé d'une manière aussi directe que quand il parle au Père, parce que là il n'a pas besoin de parler en parabole. C'est ça qui est merveilleux. Quand Jésus prie, il ne parle plus en parabole, et Jésus ne prie plus avec un mode esthétique, ça sûrement pas. Il prie avec la simplicité du Fils bien-aimé à l'égard de son Père. Et donc c'est très direct. Si donc la prière sacerdotale est au sommet, je ne dis pas au sommet de tout, nous allons voir, hein, les deux sommets, le coup de lance, la prière sacerdotale de Jésus. Et nous y reviendrons à ce moment-là. Mais je le souligne tout de suite, parce que je crois qu'il y a les deux sommets, le sommet au niveau du logos et le sommet au niveau du geste. Comme nous avons dit que toute la révélation implique parole et geste, il est important de saisir le sommet du logos, donc de la révélation, et le sommet du geste. Et d'essayer de comprendre les liens qui existent entre les deux. Alors, si vraiment le chapitre 17 est le sommet au niveau du logos, je crois que c'est ça qui doit nous aider à comprendre ce que c'est qu'une théologie mystique. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Une théologie mystique va donc être une théologie de la gloire, c'est-à-dire de la victoire de l'amour, tant au niveau de la très sainte Trinité qu'au niveau du cœur blessé de l'agneau, qu'au niveau du cœur de Jésus ressuscité, qu'au niveau de chacun d'entre nous et de l'Église. Une théologie scientifique cherche le plus d'intelligibilité possible. Et une théologie mystique cherche d'aller le plus loin possible dans l'ordre de l'amour. Or, aller le plus loin possible dans l'ordre de l'amour, c'est la gloire, puisque c'est la victoire de l'amour. C'est pour que nous saisions de saisir, puisque nous lisons saint Jean pour essayer de comprendre progressivement ce que doit être pour nous une théologie mystique. C'est à partir, je crois, de l'évangile de saint Jean que nous pouvons comprendre. Une théologie mystique, vous voyez, c'est pas dans, chez les philosophes que je vais découvrir ce que c'est. Comme du reste une théologie scientifique, c'est pas auprès des philosophes. C'est à l'intérieur même de l'écriture que je découvre cette dimension qui est irréductible à l'ordre de la théologie scientifique. Faites ce petit parallélisme, très simple, mais c'est toujours ce que nous devons essayer de faire. Théologie scientifique, théologie mystique, l'analogue est ce qui est du point de vue du être et le bien. La ratio est la ratio bonique. L'analogie, c'est une analogie. La théologie mystique est à la théologie scientifique ce que le bien est à l'être. Et par le fait même, philosophiquement parlant, philosophie première, éthique. Si vous n'avez pas d'éthique, vous ne pouvez pas faire de théologie mystique. Ça, c'est bien évident. Ça vous donne un peu de courage de faire de l'éthique. Si vous n'avez pas de théologie, si vous n'avez pas d'éthique, vous ne pouvez pas faire de théologie mystique. C'est impossible. C'est pour ça, peut-être, voyez, que la théologie mystique est restée en panne dans l'Église occidentale. Parce qu'au fond, on a développé la scolastique, on a développé, tant bien que mal, on a gardé un peu de métaphysique, mais on n'a pas beaucoup développé l'éthique. Très peu développé l'éthique. Très peu. Alors il y a forcément quelque chose qui ne pouvait pas se développer, parce que le mystique, il ne fait pas nécessairement une théologie mystique. Il faut être théologien pour faire une théologie mystique. Il faut être théologien et avoir le sens profond de ce qu'est la mystique. Donc une certaine connaturalité. Un certain sens, une certaine expérience. Comme je ne peux pas faire de théologie scientifique si je n'ai pas la philosophie première. Impossible. Si je n'ai pas le sens de l'être et de l'intelligibilité de l'être, je ne peux pas. Impossible. Alors, si ces deux choses-là disparaissent, vous voyez, comme aujourd'hui, on veut faire une théologie, vous savez bien, le tournant de la nouvelle théologie, Karl Rahner l'a dit, c'est l'anthropologie qui remplace la métaphysique. Alors vous avez une anthropologie qui veut remplacer les deux. Alors vous n'avez plus de théologie scientifique, vous n'avez plus de théologie mystique. Alors vous avez une théologie anthropologique. Cherchez bien pour comprendre. Ce sera intéressant une fois de regarder ce que c'est qu'une théologie anthropologique. De bien voir ce que c'est. Pour essayer de comprendre mieux ce que représente ce point de vue d'une théologie scientifique et d'une théologie mystique. Voyez, j'insiste beaucoup parce que quand nous disons que nous reprenons saint Thomas au point de vue de théologie scientifique, c'est très vrai qu'on le reprend, mais dépassons-le tout le temps. Parce que la seule chose qui est communicable au monde d'aujourd'hui, c'est une théologie mystique. Je crois que c'est la seule chose communicable. Il y a deux choses communicables dans le monde d'aujourd'hui, c'est le contact avec les hommes par une philosophie très lucide, une théologie très limpide. Et puis, réveiller la foi par une théologie mystique. La théologie scientifique, c'est un usage ad intran. C'est le laboratoire des gammes et des leçons de chant et du solfège. C'est bien évident, c'est ça. Tandis que la théologie mystique, c'est ce que nous devons essayer de transmettre pour nourrir, aider. C'est évident qu'il y a des passages de l'un à l'autre, c'est bien évident, de temps en temps, on devra bien... Du reste, une théologie mystique, pour rester une vraie théologie mystique, a besoin d'une théologie scientifique. Absolument. Autrement, au bout d'un certain temps, vous tomberez dans une dévotion, une spiritualité, vous ne savez plus rien du tout, et ça deviendra d'une affectivité mièvre. Pour que l'affectivité garde toute sa dignité d'affectivité divine, on a besoin de cette dignité de la théologie scientifique. C'est très curieux, ça. Ça, c'est, on ne peut pas dire que saint Thomas est périmé parce qu'on va avoir une théologie mystique. Pas du tout. Pour pouvoir avoir une théologie mystique qui soit vraie, il faut cette théologie scientifique. Bon, je crois, vous voyez, je rappelle ça, c'est parce que quand on essaie d'entrer un peu dans ce chapitre 17, on est devant un tel sommet, quelque chose qui va tellement loin, qu'on est en face d'une théologie mystique, celle du cœur blessé de l'agneau, celle du cœur sacerdotal du Christ, celle du cœur du Fils bien-aimé. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Kédron. Vous voyez, comme Jean souligne même le lieu. Il a prévu d'avance, le Saint-Esprit, que des quantités diraient « Mais non, ce n'est pas historique du tout, ce n'est pas passé là du tout. » Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Kédron. On voit très bien, il a passé le Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra. On voit très bien le jardin de Gethsémani, le jardin des Oliviers. On passe le Cédron. Donc c'est encore de l'autre côté, vous voyez, c'est curieux. Le Cédron va représenter comme un passage. Hein. C'est un passage. On passe d'une rive à l'autre. Il y a là un jardin dans lequel il entra ainsi que ses disciples. Judas qui le livrait, connaissant aussi l'endroit, parce que Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. C'est un lieu bien connu des disciples. C'est un lieu que les disciples aiment beaucoup et que Jésus aime. C'est un lieu à l'écart, c'est un lieu de repos, de prière. Judas donc emmena la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors, ici de nouveau, hein, si nous regardons Saint-Luc et les synoptiques, nous voyons qu'il y a un moment très important que Jean ne note pas. Le grand mystère de l'agonie du Christ. Jean ne note pas parce que sans doute que c'est lui qui l'a fourni, qui l'a donné à Saint-Luc. Donc chapitre 22, dans Saint-Luc, verset 39. Je vous relis. Et sortant, il se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Et les disciples suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Il se sépara d'eux d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et lui apparut, venant du ciel, un ange qui le fortifiait. Et entré en agonie, il priait de façon plus ardente. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui descendaient jusqu'à terre. Et se relevant de sa prière, venant vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et le nommé Judas, un des 12, les précédait. Donc, ce grand mystère de l'agonie, que je crois qu'on peut considérer comme, dans Saint-Luc, comme venant de Jean. C'est quelque chose de très grand, cette prière silencieuse de Jésus. Jésus en face du Père, et qui exprime encore un désir de son cœur. Plus du tout la même prière que la prière du Fils bien-aimé. La prière de celui qui est en présence du mystère de la croix, la coupe, et qui vit par avance ce mystère de la croix. Mais dans une pure intériorité. La croix est vécue d'abord dans l'intériorité absolue de l'agonie. Elle est vécue ensuite avec toute la manière extérieure, brutale, violente, qui ne supprime rien de l'intériorité en Jésus. En nous, ça supprimerait quelque chose de l'intériorité. Sauf si le Saint-Esprit nous donnait une très grande grâce. Mais c'est très beau de voir que Jésus a vécu d'abord le mystère de la croix dans la pure intériorité. C'est pour nous, ça. Il n'avait pas besoin, lui. C'est pour nous. Tout ce qui est grand doit être d'abord vécu dans la pure intériorité de l'oraison. Le mystère de l'agonie, c'est un mystère d'oraison. C'est l'oraison. C'est Jésus qui entre dans ce silence profond juste avant de connaître l'holocauste de la croix. Et Jésus, en face du Père, se considère comme le seul responsable de toute l'humanité, comme à la croix, puisqu'il porte toute l'iniquité du monde. Il est l'agneau qui porte toute l'iniquité du monde. Et ça exprime, du reste, comment il est terrassé. C'est Jésus qui connaît la tristesse. Tristesse du péché, être séparé de Dieu. Jésus accepte de connaître la conséquence première du péché dans le cœur de l'homme, c'est d'être séparé de son Père et d'être seul. Le péché nous met dans la solitude. Et dans une solitude terrible, la solitude d'une tristesse. C'est un mystère, hein, l'agonie. Ça ne peut pas s'expliquer par l'angoisse. C'est un mystère. Nos angoisses sont mêlées de mystères et d'ordre psychologique. Et c'est très, très difficile d'en faire le partage. Qu'est-ce qu'il y a de psychologique? Qu'est-ce qu'il y a de mystère? C'est pour ça, du reste, que les psychologues ne peuvent jamais comprendre ce que c'est que l'angoisse au sens profond. Parce qu'ils la regardent qu'un point de vue psychologique. Or, pour un chrétien, et surtout pour un religieux, l'angoisse est toujours liée à un mystère. Un mystère qui est le mystère du Christ. Être purement psychologique. Et pour le Christ, le mystère de l'agonie est un mystère au sens le plus fort. Donc vous ne pouvez pas expliquer l'agonie par un point de vue psychologique. C'est au-delà du point de vue psychologique. Et ça va plus loin que toute angoisse psychologique. C'est bien évident, l'angoisse psychologique ne va pas aussi loin que le mystère de la tristesse que Jésus connaît. Le mystère de séparation, l'angoisse nous met toujours dans la solitude et nous sépare, c'est bien évident. Mais c'est une séparation et une solitude psychologique qui peut être terriblement torturante, qui peut être terriblement dure, mais l'agonie du Christ, ça va beaucoup plus loin, puisque c'est de l'ordre de l'amour. L'agonie du Christ, c'est un mystère d'amour, puisque c'est le mystère de celui qui porte l'iniquité du monde et qui se présente au Père comme le seul responsable de toute cette humanité. Et donc, il connaît la séparation du péché, il connaît la rupture du péché, il connaît comment le péché met cette déchirure au plus intime du cœur de l'homme. Et Jésus vit cette déchirure dans le cœur de l'homme comme rejeté de Dieu, abandonné de Dieu et rejeté des hommes et abandonné des hommes. Et portant en lui ce poids du péché, le désordre du péché, l'anarchie du péché. Rupture à l'égard de Dieu et anarchie à l'égard des hommes. Et il y a, au milieu de l'agonie, la prière de Jésus, prière infiniment mystérieuse. Que ce calice s'éloigne, et non pas ma volonté, mais la tienne. Et je crois que cette prière nous fait entrer sans doute dans ce qu'il y a de plus profond dans l'agonie de Jésus. Au moment où Jésus touche comme une tristesse excessive, où il n'en peut plus, qu'il exprime cette prière et qu'il l'expose en face du Père. Au paroxysme, vous voyez, de la tristesse. Le paroxysme de la tristesse, je crois, est exprimé de cette manière-là. Il n'en peut plus. Alors, ça reste, là encore, un grand mystère de la relation du Fils avec le Père. Que ce calice s'éloigne. Et Jésus prend exprès l'expression du calice, il ne dit pas que la croix s'éloigne, mais que le calice s'éloigne, que cette coupe s'éloigne, cette coupe de souffrance, cette coupe de l'action du Père sur lui. Alors, on peut expliquer cette demande de Jésus de diverses manières, ça a été expliqué du reste de diverses manières. On a pu dire que Jésus demandait que le mystère de la croix, que le mystère de la mort de la croix soit écarté. Il est sûr que dans le fond de l'âme de Jésus, dans le fond de son âme humaine, il y a une horreur de la croix. Une horreur normale. Naturel. La mort est toujours quelque chose d'horrible pour l'individu, même si on est saint. C'est toujours quelque chose d'horrible par rapport à la nature humaine, puisque c'est l'esprit, l'âme spirituelle qui doit être brisée par rapport au corps temple de l'esprit. Étant de l'Esprit Saint. La mort apparaît toujours, au point de vue de notre regard humain, comme une défaite de l'amour, et comme la plus terrible des défaites de l'amour. Et c'est en ce sens-là que on peut comprendre que Jésus demande que la croix, la mort de la croix, soit écartée. Je ne crois pas que ce soit ça la dernière explication. Que ce soit impliqué dedans, c'est possible. Mais voyez, si c'était uniquement ça, ce ne serait pas un mystère au sens très fort. parce que la crainte de la mort, je peux la percevoir, c'est pas mystérieux. La crainte de la mort enveloppée par l'amour et acceptant cette défaite de l'amour apparente, ah, ça c'est déjà beaucoup plus profond. Accepter que l'amour ne semble pas victorieux. Accepter d'être pris dans cette espèce de tourmente qui fait que l'amour est comme vaincu. Là, il peut y avoir un mystère. C'est le mystère du Père qui veut que son Fils connaisse cette très grande pauvreté. La pauvreté intérieure, c'est d'accepter que l'amour ne soit pas victorieux. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Accepter qu'apparemment, l'amour soit vaincu. D'accepter qu'apparemment, le démon soit victorieux. C'est une des choses les plus difficiles à accepter. Et qui exige un abandon qui va très très loin. Vous voyez, parce que ça exige de ne plus s'arrêter à sa propre conception, à son propre jugement. Ça exige de tout remettre au bon plaisir du Père. C'est l'attitude de l'abandon dans ce qu'il a de plus fort, je crois. De sorte que ça pourrait être ça. Vous voyez, Jésus qui demande, ça pourrait être ça, parce que là nous touchons un mystère, hein. Le mystère de l'exigence de Dieu qui va jusque-là, Dieu qui réclame, Dieu qui dans son amour apparaît comme réclamant la souffrance. Dieu qui dans son amour apparaît comme exigeant cette souffrance, et non seulement cette souffrance, mais que la souffrance apparaît comme victorieuse. Le mal apparaît comme victorieux. Mais je crois qu'on peut peut-être, à l'intérieur même de cette lutte, parce que c'est une agonie, c'est une lutte, préciser encore la coupe. C'est la croix telle que le Père la veut. Et tel que le Père la veut, c'est la croix qui s'étend dans le cœur de Marie. Et donc c'est la croix qui implique le mystère de la compassion. C'est ça la vraie coupe. La croix plénière. Et la croix plénière, c'est une croix qui a son achèvement dans le cœur de Marie. Marie qui, en dernier lieu, vit le mystère de la croix. Et je me demande si ce n'est pas cela qui est le point ultime, vous voyez, de la prière de Jésus. Je sais bien, c'est une interprétation. Et je crois que c'est une interprétation qui va dans le sens de toute l'Écriture. Jésus sait, dans son cœur d'homme, dans sa science infuse, Jésus sait qu'il peut réaliser pleinement et parfaitement le mystère de la rédemption en étant seul à souffrir. Il le sait. Il l'a accepté. Même si c'est dur, il l'a accepté. Il est venu pour cela. C'est son heure. Alors, il me semble qu'il peut y avoir cette lutte très intérieure, très profonde, à l'intérieur même de l'amour. Un amour qui a un mode plus divin, il y a un amour qui a un mode qui reste magnanime, très grand, mais qui n'a pas la même pauvreté, la même intensité de pauvreté. Vous voyez, Jésus pourrait être le seul à souffrir. Plus notre cœur est grand, plus notre cœur est magnanime, plus notre cœur est royal, plus nous voulons toujours être seuls à souffrir, épargner ce qu'on aime. Autant la joie se partage, autant la souffrance ne demande pas d'être partagée et d'être communiquée. En elle-même, vis-à-vis de notre cœur d'homme, vis-à-vis de la noblesse de notre cœur d'homme, vis-à-vis de la grandeur de notre cœur d'homme, autant la joie demande de se partager, autant la souffrance demande qu'on soit seul à la porter. Et quand on peut porter seul la souffrance et réaliser l'œuvre que Dieu demande en étant seul à porter, on désire être seul à la porter. C'est là où je me demande si Jésus, dans sa prière, n'a pas demandé que sa mère soit épargnée. Si Jésus, à son ultime demande, n'a pas demandé d'être seul à vivre le mystère de la croix, et que Marie soit épargnée, et que l'Église soit épargnée, et que chacun d'entre nous, nous soyons épargnés. Dans la noblesse du cœur de Jésus, je crois qu'il y a cela. Ça me semble impossible autrement. Il est la tête, il sait notre fragilité, il sait la fragilité de Marie, et il connaît notre fragilité. Il sait combien nous avons de la peine à souffrir, combien nous avons de la peine à accepter certains échecs, certaines brisures. Or, il peut nous épargner tout cela. Alors, il demande au Père que le calice s'éloigne. Mais c'est pas dit, c'est dit sous un mode symbolique, le calice. Qu'est-ce que c'est que le calice? Est-ce que ce n'est pas la mort telle que le Père veut qu'elle se réalise à la croix, où Jésus attire Marie, où Jésus nous attire tous à la suite de Marie? Et alors est-ce que Jésus, dans son humanité sainte, dans la noblesse de son cœur royal, est-ce que lui ne demande pas au Père comme une faveur que ce calice s'éloigne et immédiatement non pas ma volonté mais la tienne? Et la volonté du Père, c'est que Jésus attire Marie à lui, que Jésus attire toute l'Église à lui, chacun d'entre nous. Ça, c'est la volonté du Père. Comprenons bien cette volonté du Père. La volonté du Christ, on comprend très bien qu'on soit épargné à cause de notre fragilité, de notre faiblesse. Et la volonté du Père, c'est parce que le Père veut que le lien entre Jésus et Marie soit tel que Marie soit associée aux souffrances du Christ, Sotchia, comme dit Albert le Grand, qu'elle soit l'épouse du cœur blessé de Jésus, du cœur sacerdotal du Christ, qu'elle soit l'épouse de la victime, et qu'elle vive pleinement cet état-là, qu'elle le vive non seulement pleinement, mais qu'elle l'achève en l'ayant jusqu'au bout. La volonté du Père, c'est que entre Jésus et Marie, l'unité aille le plus loin possible, qu'elle soit semblable à celle qui existe entre Jésus et lui. Pour qu'il y ait cette surabondance, c'est de l'ordre de la surabondance d'amour, ce n'est pas nécessaire. Au niveau de la justice, on ne peut pas comprendre le mystère de la compassion. C'est pour ça que tous ceux qui ont une vision de justice, de la croix écarte Marie et écarte ce mystère de surabondance. Ça ne peut se comprendre qu'au niveau de l'amour. Si la croix était premièrement une œuvre de justice, il n'y aurait pas la compassion. Et comme la croix est premièrement une œuvre d'amour, alors il y a la surabondance. Parce que c'est preuve de l'amour de surabonder. Ce n'est pas le preuve de la justice. Alors il faut saisir cela pour nous permettre d'entrer pleinement dans l'exécution, le premier moment de l'exécution après la prière. C'est l'agonie. Prière tout intérieure, c'est le mystère de l'oraison. Je peux dire ça, vous voyez, dans la lumière de la glorification. Je ne pourrais pas le dire autrement. Mais dans la lumière de la glorification, oui. Victoire de l'amour. Ce n'est pas la victoire de la justice. C'est la victoire de l'amour. Alors à ce moment-là, on comprend comment le Père peut demander à Jésus d'accepter ce calice, c'est-à-dire d'accepter cette surabondance de souffrance. Vous savez bien que c'est ce qui est toujours le plus difficile d'accepter, c'est les souffrances qui ne s'expliquent pas, c'est les souffrances qu'on pourrait éviter, c'est les souffrances surabondantes. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à expliquer. Le mystère de la compassion, c'est un mystère de surabondance dans la souffrance. Ce n'était pas nécessaire au niveau de la justice. La seule nécessité, c'est au niveau de la surabondance d'amour. C'est la seule nécessité. C'est au niveau de l'amour. Alors au niveau de l'amour, c'est très différent. Parce que l'amour est un feu qui veut tout. Et qui brûle tout ce qu'il peut brûler. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a une préfiguration admirable de cela. La préfiguration du grand sacrifice d'Élie. Il n'y a pas que la victime qui brûle, il y a l'autel et l'eau. Ce qui montre bien comment le feu du ciel, qui n'a pas d'autre mesure, hein, que lui-même brûle tout, s'empare de la victime, de l'autel et de l'eau. Ça, c'est capital de comprendre ça, pour enlever le scandale. Tant qu'on ne se place pas là, à ce niveau-là, on demeure scandalisé, parce qu'on demeure au niveau de la justice, on demeure au niveau de nos petits raisonnements. Alors on demeure scandalisé. Tandis que si on se place dans cette lumière-là, alors le scandale tombe. Parce qu'alors c'est la plénitude de l'amour. Pourquoi tant de misère dans le monde d'aujourd'hui ? Ça, on ne cesse de vous le dire tout le temps, on est en présence de ça. Pourquoi tant de misère dans le monde d'aujourd'hui ? Pourquoi tant de souffrance ? La surabondance de l'amour. Feu du ciel qui descend et qui s'empare de tout ce qu'il peut brûler. Je crois qu'il faut entrer dans le mystère de l'agonie de cette manière pour toucher ce qu'il y a de plus mystérieux dans l'agonie, c'est-à-dire dans le cœur de Jésus, non pas ma volonté mais la tienne, où Jésus adhère pleinement à la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que Marie soit unie à Jésus, non seulement comme celle qui reçoit tout, mais comme celle qui donne tout. Ce n'est pas la même chose du tout. Quand on reçoit tout, c'est l'attitude de l'enfant. Quand on donne tout, c'est l'attitude de l'ami. Et Marie n'est pas seulement l'enfant, elle est aussi l'ami. Elle est aussi l'épouse. L'épouse du cœur du Christ. Or, le propre de l'épouse, ce n'est pas seulement de recevoir, mais c'est de tout donner. Recevoir, c'est l'enfant. L'enfant, il reçoit tout. C'est admirable, du reste. Hein. On doit toujours être de plus en plus des enfants pour recevoir de plus en plus. Mais l'attitude de l'ami, l'attitude de l'épouse, c'est pas seulement de recevoir, mais c'est de donner tout. Et Marie a tout donné. c'est le Père qui a voulu cela, qui a voulu ce don absolu. Le mystère de l'agonie plonge Jésus en face de cet ordre de sagesse voulu par le Père, qu'il accepte pleinement, mais qui est rude comme exigence du cœur de l'homme. C'est peut-être la plus grande exigence du cœur de l'homme, c'est d'être source de souffrance pour celui qu'on aime, pour celle qu'on aime. Pour un fils bien-aimé, être source de souffrance pour sa mère bien-aimée, c'est la plus grande souffrance. Surtout quand on sait que ça pourrait se passer autrement. Et quand on sait que, d'une certaine manière, vous voyez, au niveau de la justice, ce n'était pas nécessaire. Alors ça nous aide beaucoup à comprendre et à entrer dans ce mystère de la compassion, dans ce mystère de la maternité divine de Marie. Nous y reviendrons. Hein. Donc, Jean ne reprend pas le mystère de l'agonie, mais Jean, à travers tout son évangile, n'a cessé de montrer que chaque fois que Jésus était en présence de son homme, Jésus entrait en agonie. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que le premier moment où Jésus est entré en agonie, c'est lorsque Marie a dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus s'est trouvé subitement en présence de son agonie. « Femme, que me demandes-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure !» La demande de Marie l'a mis en présence de son heure. Et dès que Jésus est en présence de son heure, il entre en agonie. C'est dans ce sens-là qu'il y a eu comme une séparation. Parce que l'agonie, on est seul. Et donc il y a eu comme une séparation entre Jésus et sa mère à ce moment-là. Parce que de fait, Marie a plongé le cœur de Jésus dans l'agonie. Parce que Marie l'a mis en présence de son heure. D'une façon très facile à comprendre, c'est que Marie demande le vin. Pour Marie, c'est le vin de la parole de Dieu. Et pour Jésus, c'est le vin de son sang. Oh, c'est à la croix qu'il va donner son sang. Et donc, on peut dire que le premier moment de l'agonie dans l'âme de Jésus, c'est à Cana. Et ça va durer toute la vie apostolique de Jésus. Comme une nappe profonde, souterraine. Et c'est bien net, hein, si vous regardez ce que l'évangile de Saint Jean nous dit, que nous avons vu à propos de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à propos des Grecs, et subitement Jésus entre en agonie. Il est troublé. Devant Lazare, il est troublé. Son âme entre en agonie. Chaque fois que l'heure de Jésus se dresse à lui, il entre en agonie. C'est pour ça que Jean ne donne pas, parce qu'il l'a, je crois, communiqué à Saint-Luc, ne nous donne pas le dernier moment de l'agonie au jardin du Mont des Oliviers, mais il nous montre quelque chose que lui seul montre, ce mystère de l'agonie contemporain de toute la vie apostolique de Jésus. Ce mystère de l'agonie présent à toute la vie apostolique de Jésus.